à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 14 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, l'opposition défie le pouvoir et appelle à des manifestations avant un nouveau procès d'un de ses dirigeants, Ousmane Sonko. En Mauritanie, dissolution de l'Assemblée nationale, élection fixée au 13 mai. Au Mali, l'animateur Rasbat écroué après ses propos sur la mort de l'ex-premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga. Dans l'est de la RDC, lueur ardente au sommet du volcan Nyamulagira, appel au calme de l'observatoire volcanologique de Goma. Le retour du cyclone Freddy a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique. Le président américain Joe Biden lance un spectaculaire programme de sous-marins à propulsion nucléaire avec l'Australie et le Royaume-Uni. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, la principale coalition de l'opposition appelle à 2 jours de manifestation ce mardi et demain mercredi. Cet appel à manifester intervient avant le procès jeudi d'un de ses principaux dirigeants, Ousmane Sonko. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La coalition Yewi Askanoui, Libérons le peuple en langue wolof, a prévenu qu'elle passerait outre une éventuelle interdiction de ces manifestations. L'opposant Ousmane Sonko doit faire face à la justice jeudi à Dakar. Il est poursuivi par le ministre du Tourisme Mam Mbaye Niang pour diffamation, injure et faux. La coalition a annoncé un giga-meeting ce mardi après-midi à Dakar, suivi de marches nationales mercredi dans les 46 départements du pays. Nous allons manifester avec ou sans autorisation. Nous n'appelons ni à un coup d'État, ni à une guerre civile, mais à l'exercice d'un droit constitutionnel, a affirmé vendredi M. Sonko. Il accuse le pouvoir d'arrestation arbitraire de journalistes et d'acteurs politiques. Le gouvernement nie et invoque une juste application de la loi. M. Sonko fait aussi l'objet d'une autre procédure pour viol et menace de mort après une plainte d'une employée d'un salon de beauté de Dakar. Ces deux procédures pourraient être déterminantes pour sa candidature à l'élection présidentielle en 2024. L'opposition reproche au président de vouloir briguer un troisième mandat à la tête du pays. Macky Sall n'a encore rien dit sur ses intentions.
En Mauritanie, le président a annoncé hier par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Les prochaines élections législatives, régionales et municipales sont fixées au 13 mai. Eric Manirakidza.
L'annonce de la tenue des élections le 13 mai a été faite par le ministre mauritanien de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, à la suite d'un conseil des ministres exceptionnel. Le mandat des députés s'achève normalement en août prochain, mais un accord entre les différentes forces politiques avait acté la tenue d'élections anticipées pour éviter la saison des pluies, certaines régions devenant difficiles d'accès. Lors des prochaines législatives, le nombre de députés passera de 157 à 176, a indiqué l'agence de presse officielle mauritanienne. Le camp du président Mohamed Ould Cheikh El Razouani disposait dans l'Assemblée dissoute d'une majorité confortable. Il fera face au mois de mai à une opposition divisée.
RDC, l'observatoire volcanologique de Goma dans l'est du Congo, a signalé hier soir qu'une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira, voisin du Nyiragongo, dont une éruption en mai 2021 avait fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons du chef-lieu du Nord Kivu. Selon l'observatoire, cette lueur ne présente pas de risque pour la ville. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à de faibles profondeurs vers le cratère central du Nyamulagira, précise-t-il dans un communiqué. Si l'activité actuelle elle conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national des Virunga. L'observatoire recommande à la population de Goma, ville de plus d'un million d'habitants située à la frontière rwandaise, de garder son calme et de vaquer librement à ses occupations. Il souligne toutefois que des produits volcaniques tels que cendres et scories peuvent retomber dans les zones habitées et demandent notamment de respecter les consignes de lavage des légumes. Il recommande aussi aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. Le cyclone Freddy a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique. En revenant frapper l'Afrique australe, ont indiqué lundi les autorités. Michel Joseph.
Au moins 99 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées au Malawi après une coulée de boue dans la nuit qui a emporté des maisons et enseveli des habitants. L'agence de gestion des catastrophes s'attend à un bilan encore plus lourd et au moins 10 personnes sont mortes et 14 autres blessées au Mozambique voisin, selon les autorités locales. Après un premier passage à la fin du mois de février, ce cyclone a traversé l'Afrique australe le week-end dernier pour la deuxième fois, accompagné de vents puissants et de pluies torrentielles. Il est en passe de devenir la tempête la plus longue jamais enregistrée. Le président Lazarus Chakwera a déclaré l'état de catastrophe dans le sud du Malawi, dévasté par des inondations. Son gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale en faveur des familles sinistrées. Des dizaines de maisons ont été emportées par les eaux dans la région de Blantyre, la capitale. Et les pluies incessantes entravent les efforts de sauvetage, a fait savoir Beatrice Mikuwa, porte-parole de la police régionale. L'Institut national mozambicain pour la gestion des catastrophes poursuivait lundi son évaluation, mais a fait savoir que les répercussions de la deuxième tempête a touché le pays depuis la fin février sont plus importantes que prévues.
Le bilan provisoire d'un naufrage d'un petit ferry jeudi au large du Gabon est passé à 6 morts et 31 disparus et l'épave désormais localisée devrait permettre de rendre d'autres dépouilles à des familles éplorées qui les attendent à quai depuis plus de 4 jours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est décidé, l'Australie va acheter avec les États-Unis des sous-marins à propulsion nucléaire. Le président américain Joe Biden, le premier ministre australien Anthony Albanese et le premier ministre britannique Rishi Sunak ont formalisé hier les détails de ces acquisitions militaires à la base navale américaine de San Diego en Californie dans le cadre du projet AUKUS. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Canberra a exclu de se doter d'armes nucléaires, mais l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire transformerait son rôle dans l'alliance avec les États-Unis. L'Australie va acheter 3 sous-marins américains à propulsion nucléaire de la classe Virginia, avec une option sur 2 submersibles supplémentaires. Ensuite, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni vont s'associer pour une nouvelle génération de sous-marins baptisés SSN AUKUS, a annoncé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le projet de l'Alliance AUKUS avait fait enrager la France lors de son annonce il y a 18 mois. Il n'est pas non plus du goût de Pékin, qui le juge dangereux et destiné à acculer la Chine. En retour, Washington affirme que Pékin inquiète les pays de l'Asie-Pacifique en menaçant Taïwan, tout en soulignant le risque posé par la Corée du Nord qui multiplie les tirs de missiles. Les sous-marins doivent être livrés à partir de 2030.
La Corée du Nord a tiré mardi 2 missiles balistiques de courte portée, a annoncé Séoul au lendemain du coup d'envoi des plus importantes manœuvres conjointes avec les États-Unis depuis 5 ans. Dimanche, Pyongyang avait lancé 2 missiles de croisière depuis un sous-marin à la veille des exercices conjoints Freedom Shield qui ont débuté lundi pour au moins 10 jours. Selon la Corée du Nord, ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces, tout en critiquant les exercices américano-sud-coréens. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré lundi lors d'une conférence de presse que son pays était plus sûr que les États-Unis malgré l'enlèvement récent de 4 ressortissants américains, dont 2 sont morts en captivité. Il a fait cette comparaison lorsqu'il a été interrogé sur les mises en garde de Washington, invitant les Américains à éviter de voyager ou à prendre des précautions supplémentaires dans 32 États du Mexique. La Minute Éco, Nani Talani.
Les autorités guinéennes et les actionnaires se sont mis d'accord sur les termes de la joint venture CTG, la compagnie du Transguinéen, pour exploiter Simandou, l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde, a annoncé lundi la présidence. Cela ouvre la voie à la reprise des travaux ce mois-ci. L'État recevra 15% du minerai et une participation gratuite et non diluable de 15% dans les infrastructures ferroviaires et portuaires. La CTG réaffirme également les précédents engagements d'ouvrir à terme le chemin de fer aux services voyageurs et autres usagers. Le FMI salue le lancement des réformes économiques de la Mauritanie qu'il soutiendra pour environ 87 millions de dollars et le ferme engagement de Nouakchott dans sa mise en œuvre. Il vise à préserver la stabilité macroéconomique, à renforcer les cadres de politique budgétaire et monétaire, à consolider les bases d'une croissance durable et inclusive et à réduire la pauvreté, assure le directeur général adjoint du FMI, Kendi Okamura, à l'issue d'une visite en Mauritanie le 10 mars. Terminons par la Banque africaine de développement qui réaffirme son soutien au plan de diversification économique et de reconstruction de la Libye, y compris la promotion des opportunités d'investissement. Cet engagement a été pris suite à la visite de la délégation de la BAD en Libye qui y a rencontré des autorités pour discuter des domaines d'intervention de la banque dans tous les secteurs, notamment l'eau, l'agriculture, l'industrie, l'énergie et les énergies renouvelables, les transports et la gouvernance.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les matchs de la Basketball Africa League saison se poursuivent ce mardi à Dakar.
Oui, les équipes de la Conférence Sahara font leur 2e sortie à la Dakar Arena. 2 matchs au programme, tous 2 perdants lors de leur première sortie. Kwara Falcons du Nigeria et le Stade Malien s'affrontent à 16h temps universel. Les 2 vainqueurs, Abidjan Basketball Club et Rwanda Energy Group, seront aux prises à 19h30 TU. Pour rappel, les tenants du titre, les Tunisiens de l'US Monastir, Rwanda Energy Group et Abidjan Basketball Club ont réussi leur entrée dans cette compétition le week-end. En revanche, Kwara Falcons du Nigeria, le Stade Malien et le club hôte, l'AS Douane, ont perdu leur premier match.
Football, le sélectionneur du Maroc a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou.
Walid Regragui a convoqué 30 Lions de l'Atlas pour ses matchs amicaux, les premiers après leur 4e place historique au Mondial. Le Maroc fait face à un gros morceau, le Brésil, le 25 mars à Tanger, avant d'affronter le Pérou en Espagne le 28 mars. Walid Regragui a fait dans la continuité, selon Amine Birouk, notre consultant à Casablanca.
L'équipe du Maroc a conservé l'ossature et l'essentiel des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde, sauf cas de blessure ou de méforme. Il n'y a que 3 absences notables, c'est-à-dire Ilyes Shaer, le joueur de Queen's Park Rangers, Yahya Gebran, le capitaine du Wydad, pour méforme, et Salim Amelah à cause d'une blessure. Sinon, tout le reste des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde répondront présents. Retour d'Emran Louzel, le joueur de Watford, qui avait été blessé gravement avant la Coupe du Monde et qui a manqué le rendez-vous au Qatar en novembre dernier. Et puis la convocation de 7 joueurs issus de la catégorie des moins de 23 ans. Ils feront le stage de préparation.
Merci Amine. Dans cette liste, on note la présence de l'ailier du PSG, Achraf Hakimi, mis en examen pour viol le 3 mars après avoir été accusé par une femme de 24 ans de l'avoir violé le 25 février chez lui en banlieue parisienne. Des accusations qu'il conteste. Walid Regragui dit l'avoir appelé sur la base de la présomption d'innocence.
Oui, je parle avec Achraf. Je parle souvent avec Achraf comme beaucoup de joueurs. Il est serein, c'est le plus important. Nous, on est avec lui. Comme on a dit, il y a la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, pour nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf. On le soutient. Comme je lui ai dit, il faut qu'il pense au football d'abord. Il y a des gens qui vont s'occuper de ces affaires-là pour lui. Mais nous, on est tout cœur avec lui. Et Achraf, je pense que ça lui fera du bien justement de rentrer au Maroc et de sentir qu'on le soutient. Après, c'est quelqu'un qui est fort sur le terrain et en dehors du terrain.
Walid Regragui, au micro d'Amin Birouk, notre consultant à Casablanca.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le célèbre chroniqueur et activiste malien Mohamed Youssouf Batili, plus connu sous le nom de Rasbat, qui a été convoqué par le commissariat du 5e arrondissement de Bamako lundi, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi. Il avait déclaré samedi que l'ex-premier ministre Soumeilou Boubey Maïga, mort en détention il y a un an, avait été assassiné. Pour en savoir davantage sur les raisons de cette nouvelle arrestation, Modibo Dambélé a joint son conseil, maître Kassoum Tapo, ancien bâtonnier et ancien ministre de la Justice du Mali.
Il vient d'être mis sous mandat par le parquet de la commune 4. Il a été effectivement interpellé, il a été convoqué, il s'est présenté lui-même, il a été entendu longuement par la police et puis déféré au parquet qui vient juste à l'instant de le mettre sous mandat. Donc pour simulation d'infraction, dénonciation d'infraction simulée, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, ce que Rasbat a dit, il l'a dit à un meeting politique, à la conférence nationale de l'ASMA, qui est le parti de Feu Boubey Maïga, ancien premier ministre. Il a dit que les militants de Boubey ne l'ont pas défendu, que Boubey a été assassiné et qu'il a des représentants qui siègent au CNT qui n'ont pas interpellé le gouvernement sur ça. Je pense que ça peut s'analyser tout simplement comme une dénonciation d'un crime. Un citoyen dit qu'il y a eu assassinat. Qu'est-ce que doit faire le procureur? C'est d'ouvrir une enquête, surtout qu'il y avait des éléments pour ça, parce que je vous rappelle que dans ce dossier, le procureur général après la Cour suprême, quand Boubey est décédé, c'est lui immédiatement qui a demandé une autopsie. Il a dit où la famille signe un papier pour renoncer à l'autopsie ou on fait l'autopsie. Ça veut dire qu'il y avait un doute sur les circonstances de sa mort. Et je me souviens, c'est moi qui ai conseillé à la famille de Boubey pour récupérer son corps d'accepter de signer la renonciation à l'autopsie. Donc le procureur général, en toute logique, aurait dû ouvrir une enquête pour la mort de Boubey. Donc le dire que quelqu'un, un citoyen, affirme qu'il a été assassiné avec les éléments qu'il dit posséder, on ouvre une enquête, mais on ne prend pas les dénonciateurs comme l'assassin. Manifestement, nous sommes encore dans la répression politique parce que le discours que Rasbat a été tenu lors de la conférence nationale d'un parti politique. C'est donc un discours politique. Je ne pense pas que ça devrait justifier un embastillement. On aurait pu le laisser en liberté, l'écouter et puis le convoquer devant le tribunal.
Qu'est-ce que vous comptez faire actuellement en tant que son conseil?
On va faire une demande de mise en liberté provisoire auprès du procureur pour qu'il nous trouve une date d'audience avant le 13. C'est le maximum de la détention autorisée pour le mandat du parquet. Donc on l'a mis à 3 mois. On va essayer, de, selon la jurisprudence du parquet de la commune 4, de demander une mise en liberté au bout d'ici 1 mois.
Maître Kassoum Tapo, ancien bâtonnier et ancien ministre de la Justice du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Alors que le conflit opposant forces armées congolaises aux rebelles du M23 continue dans l'est de la RDC, certains secteurs dans la province du Nord Kivu s'inquiète de l'impact de ces affrontements sur l'environnement, plus spécialement sur la faune. La vie sauvage dans cette région du Congo est bouleversée par la guerre qui y sévit depuis fin 2021. Reportage de Zanem Neti Zaidi.
Les écologistes soulignent que la guerre qui affecte tant la vie des habitants du Nord Kivu a aussi un impact considérable sur la faune sauvage. L'organisation Gorilla Ambassadeuse déplore le fait que les gorilles du parc national de Virunga se trouvent actuellement dans les zones contrôlées par les rebelles du M23 et que les parcs ne surveillent plus ces espèces rares en raison de la reprise des combats dans la province. Des zones ont été déboisées et les animaux en paient les prix. Alain Moukiranya est le directeur général des Gorilles Ambassadeurs.
Depuis une année de guerre causée par la rébellion 23, et cela a eu beaucoup d'impact qui empêche les rangers et autres services de faire le suivi, le monitoring aux vétérinaires d'avoir accès aux faunes pour soigner ces êtres très chers.
Pour Bantou Lukambo, qui essaie chaque jour de prêcher par l'exemple en nettoyant son environnement, la protection de la faune devrait être un combat commun. Ces militants des droits environnementaux dénoncent le fait que la destruction de la faune semble laisser impassible le gouvernement congolais et la communauté internationale.
Et ce qui nous dérange beaucoup, c'est de voir ni notre gouvernement ni les communautés internationales fermer les yeux face à cette situation. Puisque ce qui est vrai, la situation est compliquée. Et si une fois ça continue comme ça, ça risque vraiment de créer des situations irréversibles pour l'avenir.
La protection de la vie humaine et la faune sauvage reste un défi majeur pour le gouvernement congolais. Touvert Hundi, responsable de l'organisation Maïdeni et proche du gouvernement provincial, appelle à la reprise de conscience de tous malgré la situation des guerres en RDC.
Aujourd'hui, on ne sait pas aller cultiver son champ s'il n'y a pas de sécurité. On ne sait pas aller visiter, faire le tourisme de vision dans la nature si on n'a pas la sécurité. Donc toutes les démarches que les autorités sont en train d'entreprendre afin que la quiétude, la sécurité soit garantie, contribuent à la protection de la vie sauvage, y compris la vie de l'homme.
Depuis mars 2022, date de la reprise du conflit entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, la faune est menacée dans la province du Nord Kivu. Bombardements, explosions, attaques multiples sont devenues monnaie courante dans et autour du parc national de Virunga et les deux parties en conflit sont pointées du doigt. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Cameroun, les femmes de la région de l'extrême nord s'impliquent dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles se sont constituées en groupes d'initiatives communes pour cultiver du mil et créer des greniers communautaires où les familles peuvent emprunter les céréales en période de soudure. L'expérience a sorti une quarantaine de communautés des risques d'insécurité alimentaire grâce au financement et à l'encadrement d'ONG. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jultap, a visité quelques villages dotés des banques de céréales.
Le village Godola est situé à une trentaine de kilomètres de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Ce jour, non loin du grenier communautaire, les femmes du village se concentrent sur la prochaine saison de récolte du mil. Toute la récolte de l'an dernier a été empruntée par la communauté en période de soudure. Asta Ousmanou est cultivatrice au village Godola.
Quand il n'y avait pas ce grenier-là, il y avait la famine. Les populations de Godola allaient à la montagne couper du bois pour aller vendre à Maroua et acheter du mil afin de nourrir la famille. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne part pas non plus à Maroua pour labourer dans les champs et être payé à 1000 francs CFA afin d'acheter le mil et manger.
Godola compte près de 4000 âmes. Le village a été frappé il y a 9 ans par la famine à la suite des graves inondations. Le gouvernement japonais et une ONG locale, le réseau de lutte contre la faim, ont alors octroyé des céréales aux femmes pour les cultiver et créer plus tard un grenier communautaire. Depuis 8 ans, Gianni Deyara est l'un des rares hommes impliqués dans ce projet.
Le ZIC même là, comme on a un peu du gré, on a un peu vendu, on a acheté le terrain, quelques 200 carreaux de zoyons de la saison 16. On a fait les zoyons, on a gardé, on a eu jusqu'à 40 sacs en cultivant la tomate. Même cette année, par la grâce de Dieu, on va encore refaire même 200 carreaux.
En 2015, l'arrivée des réfugiés nigériens a engendré une insécurité alimentaire au village Gourguel, à une soixantaine de kilomètres de Maroua. Pour sortir le village de la famine, 16 personnes, dont des femmes, ont mis sur pied un grenier communautaire dont la capacité de stockage est aujourd'hui de 250 sacs de mil. Haman Masuba, cultivatrice à Gourguel.
Il y a eu beaucoup de changements dans le village. Avant, on ne trouvait pas à manger. On envoyait nos enfants en ville pour chercher à manger. On vendait nos bêtes pour acheter du mil. Maintenant, avec le grenier, on a la nourriture sur place. Et nos stocks sont en plus sécurisés à l'abri des enfants.
Plusieurs bailleurs de fonds américains financent ce projet qui a déjà bénéficié à 49 communautés de la région de l'extrême nord. Sandrine Kouba est chargée de programme au RELUFA, le réseau de lutte contre la faim.
En termes de perspective, nous avons ajouté une autre composante qui est la promotion de la production agricole à travers des formations pour l'adaptation au changement climatique et l'intégration des pratiques agroécologiques.
Le gouvernement s'appuie depuis lors sur les statistiques de cette initiative pour harmoniser ses prévisions sur les zones à risque d'insécurité alimentaire. De retour de la région de l'extrême nord, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La BAL, Basketball Africa League, a lancé la deuxième édition du camp de basket pour filles. Cette année, une sélection de joueuses de moins de 23 ans du championnat sénégalais a participé à ce camp animé par des légendes africaines du basketball féminin. Pour la BAL, l'objectif sur le long terme est la mise en place d'une ligue féminine. En attendant, les jeunes joueuses ont pu côtoyer leurs idoles et vivre leurs rêves. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
J'ai des défis quand même. Je veux tout remporter. C'est ça que je veux. Et c'est ça que j'ai vu depuis longtemps. Donc, être reine, être championne d'Afrique, voyager, c'est ça. C'est ça que je veux réellement.
Le talent en bandoulière, Adama Hawa Diallo, fixe des objectifs très élevés pour sa jeune carrière. La basketteuse du Dakar University Club veut conquérir l'Afrique. Et c'est pour aider des jeunes filles comme elle que la Basketball Africa League a institué le programme Bell for Her, comme l'affirme Aminata Diaye, championne d'Afrique 2009 avec le Sénégal et membre du staff de la BAL.
Ce camp aujourd'hui, c'est pour apporter une opportunité aux filles pour qu'elles aient plus de visibilité. Et puis on a fait ce camp pour leur apporter un peu plus de matière en termes de basket et en dehors du terrain aussi. Parce qu'elles vont faire des camps, un camp de basket, et après elles vont faire un séminaire sur la nutrition et sur les femmes dans le sport.
Les femmes dans le sport, oui, mais surtout la place qu'il faut pour les femmes. C'est la volonté des légendes féminines du basketball africain. Pour elles, ce n'est pas une question de comparaison avec les hommes, mais une question d'opportunité et de reconnaissance. D'après Amchatou Maïga, championne d'Afrique 2007 avec le Mali et championne WNBA.
Nous avons notre place et c'est bien d'avoir ces hommes aussi qui nous accompagnent et acceptent cela parce que ça devient un peu trop s'il y a cette concurrence, parce que c'est pas une concurrence. Nous pouvons évoluer ensemble et c'est un plaisir de voir ces femmes qui ont l'opportunité d'avoir ces opportunités, pas seulement sur un terrain de basket, mais tout autour, parce qu'elles ont des capacités et ça fait plaisir de les voir d'avoir l'opportunité de les démontrer.
Après des initiatives comme les camps régionaux et le programme NBA Academy pour les filles, la BAL veut davantage renforcer la place de la femme dans le sport et dans le basketball en particulier, d'après Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League.
Maintenant, on va continuer à vraiment produire du talent au niveau des filles. Et tout ce talent aussi, le moment idéal, va pouvoir se produire sur le continent dans une ligue féminine, professionnelle, qu'on va continuer aussi à développer.
Pour la BAL, ce camp de basketball exclusivement dédié aux filles est en phase avec son ambition de s'investir pour rendre l'écosystème du sport accessible aux femmes en tant que pratiquantes et bien au-delà. Ainsi, la BAL compte multiplier ce genre de programme avec en ligne de mire la création d'ici quelques années d'une ligue féminine. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, faut-il s'inquiéter de la faillite de trois banques américaines en l'espace de quelques jours? parmi elles la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement de start-up. Mais le président Joe Biden tente de rassurer les clients, les assurant que leurs fonds sont garantis et promet de sanctionner les responsables. L'administration souhaite aussi que le Congrès renforce la régulation bancaire pour éviter une répétition de la crise de 2008. Comment expliquer ces faillites aux effets limités pour l'instant et peuvent-elles déboucher sur une crise financière mondiale? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée.